Chapitre 6. L'homme et Dieu, le jugement. Les heures, ces étranges sœurs qui se tiennent par la main, qui passent d'un vol si lent pour l'infortuné et si rapide pour l'homme heureux, les heures s'abattirent silencieusement en repliant leurs ailes pesantes sur cette chambre pleine de soupirs et de sanglots. D'un côté, la mort, de l'autre, l'agonie. Au milieu, le désespoir, douloureux comme l'agonie, profond comme la mort. Balsamo n'avait plus proféré une seule parole depuis le cri qui avait déchiré sa gorge. Depuis cette foudroyante révélation qui avait abattu la féroce joie d'Altotas, Balsamo n'avait pas fait un mouvement. Quant aux hideux vieillards, rejetés violemment dans la vie telle que Dieu l'a faite aux hommes, il semblait aussi dépaysé dans cet élément nouveau pour lui que l'est l'oiseau atteint d'un grain de plomb et tombé du haut d'un nuage dans un lac à la surface duquel il se débat sans parvenir à enfler ses ailes. La stupéfaction de cette figure livide et bouleversée révélait l'incommensurable étendue de son désappointement. En effet, Altotas ne prenait même plus la peine de penser, depuis que ses pensées avaient vu le but vers lequel elle se dirigeait et auquel elle croyait, la solidité du roc, s'anouir comme une fumée. Son désespoir, morne et silencieux, avait quelque chose de l'hébétement. Pour un esprit peu accoutumé à mesurer le sien, ce silence peut-être était un indice de recherche. Pour Balsamo, qui du reste ne le regardait même pas, c'était l'agonie de la puissance, de la raison, de la vie. Altotas ne quittait pas du regard cette fiole brisée, image du néant de ses espérances. On eût dit qu'il comptait ces 1000 débris qui avaient, en s'éparpillant, diminué sa vie d'autant de jours. On eût dit qu'il eût voulu pomper du regard cette liqueur précieuse répandue sur le parquet et qu'un instant, il avait cru l'immortalité. Parfois aussi, lorsque la douleur de cette désillusion était trop vive, le vieillard jetait son œil terni sur Balsamo, puis de Balsamo son regard passait au cadavre de Lorenza. Il ressemblait alors à ces brutes, surprises au piège que le chasseur trouve le matin arrêté par la jambe et qu'il tourmente longuement du pied sans leur faire tourner la tête, mais qui, s'il les pique de son couteau de chasse ou de la baïonnette de son fusil, lèvent obliquement leur œil sanglant, tout chargé de haine, de vengeance, de reproche et de surprise. « Est-il possible, disait ce regard encore si expressif dans son atonie, est-il croyable que tant de malheurs, que tant d'échecs viennent à moi de la part d'un être aussi infime que cet homme que je vois là, agenouillé à quatre pas de moi, au pied d'un objet aussi vulgaire que cette femme morte ? N'est-ce pas un bouleversement de la nature, un bouleversement de la science, un cataclysme de la raison ? Que l'élève si grossier est abusé, le maître si sublime, n'est-ce pas monstrueux enfin que le grain de poussière ait arrêté court la roue du char superbe et rapide dans son tout-puissant, dans son immortel essor. Quant à Balsamo brisé, anéanti, sans voix, sans mouvement, presque sans vie, nulle pensée humaine ne s'était encore fait jour à travers les sanglantes vapeurs de son cerveau. Lorenza, sa Lorenza, Lorenza, sa femme, son idole, cette créature doublement précieuse à titre d'ange et d'amante. Lorenza, c'est-à-dire le plaisir et la gloire, le présent et l'avenir, la force et la foi. Lorenza, c'est-à-dire tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il désirait, tout ce qu'il ambitionnait au monde. Lorenza était perdue pour lui, à jamais. Il ne pleurait pas, il ne criait pas, il ne soupirait même pas. À peine avait-il le temps de s'étonner qu'un si épouvantable malheur eût fondu sur sa tête. Il ressemblait à ces infortunés que l'inondation saisit dans leur lit au milieu des ténèbres, qui rêvent que l'eau les a gagnés, qui s'éveillent, qui ouvrent les yeux et qui, voyant sur leur tête une vague mugissante, n'ont même pas le temps de pousser un grand cri en passant de la vie à la mort. Balsamo, pendant 3 heures, se crut englouti dans les plus profonds abîmes du tombeau. À travers son immense douleur, il prenait ce qui lui arrivait pour un de ces sinistres songes qui visitent les trépassés dans la nuit éternelle et silencieuse du sépulcre. Pour lui, plus d'altotas, c'est-à-dire plus de haine, plus de vengeance. Pour lui, plus de Lorenza, c'est-à-dire plus de vie, plus d'amour. Le sommeil, la nuit, le néant. Voilà comment le temps s'écoula, lugubre, silencieux, infini, dans cette chambre où le sang refroidissait après avoir envoyé sa part de fécondité aux atomes qui la réclament. Tout à coup, au milieu du silence et de la nuit, une sonnette sonna trois fois. Sans doute, Fritz savait que son maître était chez Altotas, car cette sonnette tinta dans la chambre même, mais elle eut beau retentir trois fois avec un bruit insolemment étrange. Le son s'évanouit dans l'espace. Balsamo ne leva point la tête. Au bout de quelques minutes, le même tintement plus sonore retentit une seconde fois, mais sans plus que la première arracher Balsamo à sa torpeur. Puis, à un intervalle mesuré, mais moins éloigné que celui qui avait séparé le premier tintement du second, la sonnette, irritée une troisième fois, jaillit dans la chambre un éclat multiple de sons criards et impatients. Balsamo, sans tressaillir, souleva lentement son front et interrogea l'espace avec la froide solennité d'un mort qui sort de son tombeau. Ainsi dut regarder Lazare quand la voix du Christ l'appela trois fois. La sonnette ne cessait point de tinter. Son énergie toujours croissante éveilla enfin l'intelligence chez l'amant de Lorenza. Il détacha sa main de la main du cadavre. Toute la chaleur avait quitté son corps sans passer dans celui de Lorenza. Une grande nouvelle ou un grand danger, se dit Balsamo, pourvu que ce soit un grand danger. Et il se leva tout à fait. Mais pourquoi répondrai-je à cet appel? Continua-t-il sans s'apercevoir du lugubre effet de ses paroles sous cette voûte sombre, dans cette chambre funèbre. Est-ce que désormais quelque chose peut m'intéresser ou m'effrayer en ce monde? La sonnette, alors, comme pour lui répondre, heurta si brutalement ses flancs de bronze avec son battant d'airain que le battant se détacha et tomba sur une cornue de verre qui, brisée avec un bruit métallique, alla joncher le parquet de ses débris. Balsamo ne résista plus. Il était d'ailleurs important que nul, pas même Fritz, ne le vînt relancer où il était. Il marcha d'un pas tranquille vers le ressort, le poussa et alla se placer sur la trappe qui redescendit lentement et le déposa au milieu de la chambre aux fourrures. En passant près du sofa, il effleura la mante qui était tombée des épaules de Lorenza lorsque l'impitoyable vieillard, impassible comme la mort, l'avait enlevée entre ses deux bras. Le contact plus vivant que Lorenza elle-même imprima un frisson douloureux à Balsamo. Il prit l'écharpe et la baisa en étouffant ses cris avec l'écharpe même, puis il alla ouvrir la porte de l'escalier. Sur les plus hautes marches, Fritz, tout pâle, tout haletant, Fritz tenant un flambeau d'une main et de l'autre un cordon de sonnette que, dans sa terreur et son impatience, il continuait d'agiter convulsivement, Fritz l'attendait. À la vue de son maître, il poussa un cri de satisfaction d'abord, puis un second cri de surprise et d'épouvante. Mais Balsamo, ignorant la cause de ce double cri, ne répondit que par une muette interrogation. Fritz ne dit rien, mais il se hasarda, lui, si respectueux d'ordinaire, à prendre son maître par la main et à le conduire devant le grand miroir de Venise qui garnissait le dessus de la cheminée par laquelle on passait dans la chambre de Lorenza. Oh, voyez, Excellence, dit-il, en lui indiquant sa propre image dans le cristal. Balsamo frémit. Puis un sourire, un de ces sourires qui sont fils d'une douleur infinie et inguérissable, un sourire mortel, passa sur ses lèvres. En effet, il avait compris l'épouvante de Fritz. Balsamo avait vieilli de 20 ans en 1 heure. Plus d'éclat dans les yeux, plus de sang sous la peau, une expression de stupeur et d'inintelligence répandue sur tous ses traits, une écume sanglante frangeant les lèvres, une large tache de sang sur la batiste si blanche de sa chemise. Balsamo se regarda lui-même un instant, sans pouvoir se reconnaître, puis il se plongea résolument ses yeux dans les yeux du personnage étrange que reflétait le miroir. Oui, Fritz, oui, dit-il, tu as raison. Puis, remarquant l'air inquiet du fidèle serviteur, Mais pourquoi m'appelais-tu donc? Lui demanda-t-il. Oh, maître, pour eux. Eux? Oui, eux, qui cela? Excellence, murmura Fritz en approchant sa bouche de l'oreille de Balsamo, eux, les 5 maîtres. Balsamo tressaillit. Tous? Demanda-t-il. Oui, tous. Et ils sont là? Là. Seuls? Non, avec chacun un serviteur armé qui attend dans la cour. Ils sont venus ensemble? Ensemble, oui, maître, et ils s'impatientent. Voilà pourquoi j'ai sonné tant de fois et si fort. Balsamo, sans même chercher à cacher sous un pli de son jabot de dentelle la tache de sang, sans chercher à réparer le désordre de sa toilette, Balsamo se mit en marche et commença de descendre l'escalier après avoir demandé à Fritz si ses hôtes étaient installés dans le salon ou dans le grand cabinet. Dans le salon, Excellence, répondit Fritz en suivant son maître. Puis, au bas de l'escalier, se hasardant à arrêter Balsamo, Votre Excellence a-t-elle des ordres à donner? Aucun ordre, Fritz. Votre Excellence, continua Fritz en balbutiant. Eh bien, demanda Balsamo avec une douceur infinie, Votre Excellence se rend-elle près d'eux sans armes? Sans armes, oui. Même sans votre épée? Et pourquoi prendrais-je mon épée, Fritz? Mais je ne sais, dit le fidèle serviteur en baissant les yeux. Je pensais, je croyais, j'avais peur. C'est bien, retirez-vous, Fritz. Fritz fit quelques pas pour obéir et revint. N'avez-vous pas entendu? Demanda Balsamo. Excellence, je voulais vous dire que vos pistolets à 2 coups sont dans le coffre d'ébène, sur le guéridon doré. Allez, vous dis-je, répondit Balsamo, et il entra dans le salon. Fritz avait bien raison. Les hôtes de Balsamo n'étaient pas entrés rue Saint-Claude avec un appareil pacifique, pas plus qu'avec un extérieur bienveillant. 5 hommes à cheval escortaient la voiture de voyage dans laquelle les maîtres étaient venus. 5 hommes de mine altière et sombre, armés jusqu'aux dents, avaient refermé la porte de la rue et la gardaient, tout en paraissant attendre leur maître. Un cocher, 2 laquais sur le siège du carrosse tenaient sous leurs manteaux des couteaux de chasse et des mousquetons. C'était bien plutôt pour une expédition que pour une visite que tout ce monde était venu rue Saint-Claude. Aussi, cette invasion nocturne des gens terribles que Fritz avait reconnue, cette prise d'assaut de l'hôtel, avait-elle imposé tout d'abord à l'Allemand une peur indicible? Il avait essayé de refuser l'entrée à tout le monde lorsqu'il avait vu par le guichet d'escorte et deviné les armes, mais ces signes tout-puissants, irrésistibles témoins du droit des arrivants, ne lui avaient plus permis de contester. À peine maîtres de la place, les étrangers s'étaient postés comme d'habiles capitaines à chaque issue de la maison, sans prendre la peine de dissimuler leurs intentions malveillantes. Les prétendus valets dans la cour et dans les passages, les prétendus maîtres dans le salon, ne présageaient rien de bon à Fritz. Voilà pourquoi il avait brisé la sonnette. Balsamo, sans s'étonner, sans se préparer, entra dans le salon que Fritz, pour faire honneur comme il devait à tout visiteur, avait éclairé convenablement. Il vit assis sur des fauteuils les 5 visiteurs, dont pas un ne se leva quand il parut. Lui, le maître du logis, les ayant vus tous, les salua civilement. Ce fut alors seulement qu'ils se levèrent et lui rendirent gravement son salut. Il prit un fauteuil en face des leurs, sans remarquer ou sans paraître remarquer l'étrange ordonnance de cette assistance. En effet, les 5 fauteuils formaient un hémicycle, pareil à ceux des tribunaux antiques. Avec un président dominant 2 assesseurs et son fauteuil à lui, Balsamo, établi en face de celui du président, occupant la place qu'on donne à l'accusé dans les conciles ou dans les prétoires. Balsamo ne prit pas le premier la parole, comme il l'eût fait en toute autre circonstance. Il regardait, sans bien voir, toujours par suite de cette douloureuse somnolence qui lui était restée après le choc. Tu nous as compris à ce qu'il paraît, frère, dit le président, ou plutôt celui qui occupait le fauteuil du milieu. Tu as cependant bien tardé à venir, et nous délibérions déjà pour savoir si l'on enverrait à ta recherche. Je ne vous comprends pas, répondit simplement Balsamo. Ce n'est pas ce que j'avais cru en te voyant prendre vis-à-vis de nous la place et l'attitude de l'accusé. l'accusé, balbutia vaguement Balsamo, et il haussa les épaules. « Nous allons te faire comprendre, et cela ne sera pas difficile, si j'en crois, ton front pâle, tes yeux éteints, ta voix qui tremble. On dirait que tu n'entends pas. »« Suffit, j'entends, » répondit Balsamo en secouant la tête, comme pour en faire tomber des pensées qui l'obsédaient. « Te souvient-il, frère, » continua le président, « que dans ses dernières communications, le comité supérieur t'ait donné avis d'une trahison méditée par un des grands appuis de l'ordre ?»« Peut-être, oui, je ne dis pas non. »« Tu réponds comme il convient à une conscience tumultueuse et troublée. »« Mais remets-toi, ne te laisse pas abattre. »« Réponds avec la clarté et la précision que te commande une position terrible. »« Réponds-moi d'après cette certitude que tu peux nous convaincre, »« car nous n'apportons ici ni prévention ni haine. »« Nous sommes la loi. »« Elle ne parle qu'après que le juge a écouté. » Balsamo ne répliqua rien. « Je te le répète, Balsamo, et mon avertissement, une fois donné, sera comme l'avis que se donnent des combattants avant de s'attaquer l'un l'autre. Je vais t'attaquer avec des armes loyales, mais puissantes. Défends-toi. » Les assistants, voyant le flegme et l'immobilité de Balsamo, se regardèrent, non sans étonnement, puis reportèrent leurs yeux sur le président. « Tu m'as entendu, n'est-ce pas, Balsamo ?» répéta ce dernier. Balsamo fit un signe de tête affirmatif. « J'ai donc, en frère plein de loyauté et de bienveillance, averti ton esprit et fait pressentir le but de mon interrogatoire. Tu es averti, garde-toi, je recommence. » Après cet avertissement, continua le président, l'association délégua 5 de ses membres pour surveiller à Paris les démarches de celui qu'on nous signalait comme un traître. Or, nos révélations à nous ne sont pas sujettes à l'erreur. Nous les tenons ordinairement, tu le sais toi-même, soit d'argent dévoué parmi les hommes, soit d'indices certains parmi les choses, soit de symptômes et de signes infaillibles parmi les mystérieuses combinaisons que la nature n'a pas encore révélées. Or, l'un de nous avait eu sa vision par rapport à toi. Nous savons qu'il ne s'est jamais trompé. Nous nous sommes tenus sur nos gardes et nous t'avons surveillé. » Balsamo écouta le tout sans donner la moindre marque d'impatience ou même d'intelligence. Le président continua. « Ce n'était pas chose aisée que de surveiller un homme tel que toi. Tu entres partout, ta mission est de prendre pied partout où nos ennemis ont une maison, un pouvoir quelconque. » Tu as à ta disposition toutes tes ressources naturelles, qui sont immenses, celles que l'association te donne pour faire triompher sa cause. Longtemps nous avons flotté dans le doute en voyant venir chez toi des ennemis tels qu'un Richelieu, une Dubarry, un Rohan. Il y avait eu d'ailleurs dans la dernière assemblée de la rue Platrière un discours prononcé par toi, le discours plein d'habiles paradoxes qui nous ont laissé croire que tu jouais un rôle en flattant, en fréquentant cette race incorrigible qu'il s'agit d'extirper de la terre. Nous avons respecté pendant un temps les mystères de ta conduite, espérant un heureux résultat, mais enfin la désillusion est arrivée. Balsamo conserva son immobilité, son impassibilité, de sorte que le président se laissa gagner par l'impatience. « Il y a 3 jours, dit-il, 5 lettres de cachet furent expédiées. Elles avaient été demandées au roi par monsieur de Sartines. Remplies aussitôt qu'elles furent signées, elles furent présentées le même jour à 5 de nos principaux agents, frères très fidèles, très dévoués, qui habitent Paris. » Tous 5 furent arrêtés et conduits, 2 à la Bastille, où ils sont écroués au plus profond secret, 2 à Vincennes, dans l'oubliette, 1 à Bicêtre, dans le plus mortel des cabanons. Connaissais-tu cette particularité ?
Non, dit Balsamo.
Cela est étrange, d'après les relations que nous te connaissons avec les puissants du royaume. Mais ce qui est plus étrange encore, le voici. Balsamo écouta. Monsieur de Sartines, pour faire arrêter ses 5 fidèles amis, devait avoir eu sous les yeux la seule note qui renferme lisiblement les 5 noms des victimes.
Cette note t'a été adressée par le Conseil suprême en 1769 et c'est toi-même qui as dû recevoir les nouveaux membres et leur donner immédiatement le rang que le Conseil suprême leur a signé. Balsamo témoigna par un geste qu'il ne se rappelait rien. « Je vais aider ta mémoire. Les cinq personnes dont il s'agit étaient représentées par cinq caractères arabes et les caractères correspondaient sur la note à toi communiquée au nom et au chiffre des nouveaux frères. « Soit, dit Balsamo, tu reconnais ce que vous voudrez. » Le président regarda ses assesseurs pour prendre acte de cet aveu. « Eh bien, continua-t-il, sur cette même note, la seule, entends-tu bien, qui ait pu compromettre les frères, un sixième nom se trouvait. T'en souviens-tu ?» Balsamo ne répliqua point. « Ce nom était celui-ci, comte de Phénix. »« D'accord, dit Balsamo. Mais pourquoi alors, si les cinq noms des frères ont figuré sur cinq lettres de cachet, pourquoi le tien, respecté et caressé, est-il entendu avec faveur à la cour ou dans les antichambres des ministres? Si nos frères méritaient la prison, tu la mérites aussi. Qu'as-tu à pondre?
Rien.
Ah, je devine ton objection. Tu peux dire que la police a, par des moyens à elle, surpris les noms des frères plus obscurs, mais qu'elle a dû respecter le tien, nom d'ambassadeur, nom d'homme puissant. Tu diras même qu'elle n'a pas pu soupçonner ce nom.
Je ne dirai rien du tout.
Ton orgueil survit à ton honneur. Ces noms, la police ne les a découverts qu'en lisant la note confidentielle que le Conseil suprême t'avait adressée. Et voici comment elle l'a lu. Tu l'avais enfermée dans un coffret, n'est-ce pas? Un jour, une femme est sortie de chez toi, portant le coffret sous son bras. Elle a été vue par nos agents de surveillance et suivie jusqu'à l'hôtel du lieutenant de police dans le faubourg Saint-Germain. Nous pouvions arrêter le malheur dans sa source, car en prenant le coffret, en arrêtant cette femme, tout devenait pour nous calme et sûr. Mais nous avons obéi aux articles de la Constitution qui prescrit de respecter les moyens occultes à l'aide desquels certains associés entendent servir la cause, même lorsque ces moyens auraient une apparence de trahison ou d'imprudence. Balsamo parut approuver cette assertion, mais par un geste si peu marqué que dans son immobilité passée, le geste eût paru insensible. « Cette femme parvint jusqu'au lieutenant de police, » dit le président. « Cette femme donna le coffret et tout fut découvert, est-ce vrai ?»«
Parfaitement vrai. »
Le président se leva. « Quelle était cette femme ? » s'écria-t-il. « Belle, passionnée, dévouée à toi, corps et âme, tendrement aimée de toi, aussi spirituelle, aussi adroite, aussi souple qu'un des anges des ténèbres qui aide l'homme à réussir dans le mal. Lorenza Feliciani est ta femme, Balsamo !»
Balsamo laissa échapper un rugissement de désespoir.
« Tu es convaincu ? » dit le président.
« Concluez ? » dit Balsamo.
« Je n'ai pas encore achevé. » Un quart d'heure après son entrée chez le lieutenant de police, tu y entras toi-même. Elle avait semé la trahison, tu venais récolter la récompense. Elle avait pris sur elle, en obéissante servante, la perpétration du crime. Tu venais, toi, élégamment, donner un dernier tour à l'œuvre infâme. Lorenza sortit seule. Tu la reniais, sans doute, et tu ne voulais pas être compromis en l'accompagnant. Toi, tu sortis triomphant avec Madame Dubarry, appelée là pour recueillir de ta bouche les indices que tu voulais te faire payer. Tu es monté dans le carrosse de cette prostituée, comme le batelier dans le bateau avec la pécheresse Marie l'Égyptienne. Tu laissais les notes qui nous perdaient chez Monsieur de Sartide, mais tu emportais le coffret qui pouvait te perdre près de nous. Heureusement, nous avons vu. La lumière de Dieu ne nous manque pas dans les bonnes occasions. Balsamo s'inclina sans rien dire. « Maintenant je puis conclure, » ajouta le président. « Deux coupables ont été signalés à l'ordre. Une femme, ta complice, qui peut-être innocemment, mais qui, de fait, a apporté préjudice à la cause en révélant un de nos grands secrets. Toi, secondement, toi, le maître, toi, le grand cofte. Toi, le rayon lumineux qui a eu la lâcheté de t'abriter derrière cette femme pour que l'on vit moins clairement la trahison. »
Balsamo souleva lentement sa tête pâle, attacha sur les commissaires un regard étincelant de tout le feu qui avait couvé dans sa poitrine depuis le commencement de l'interrogatoire.
Pourquoi accusez-vous cette femme ? Dit-il. Ah, nous savons que tu essayeras de la défendre, nous savons que tu l'aimes avec idolâtrie, que tu la préfères à tout, nous savons qu'elle est ton trésor de science, de bonheur et de fortune, nous savons qu'elle est pour toi un instrument plus précieux que tout le monde. Vous savez cela ? Dit Balsamo. Oh, nous le savons, et nous te frapperons bien plus par elle que par toi. Achevé, le président se leva. Voici la sentence. Joseph Balsamo est un traître. Il a manqué à ses serments, mais sa science est immense, elle est utile à l'ordre. Balsamo doit vivre pour la cause qu'il a trahie. Il appartient à ses frères, bien qu'il les ait reniés. Ah ah, fit Balsamo, sombre et farouche. Une prison perpétuelle protégera l'association contre ces nouvelles perfidies, en même temps qu'elle permettra aux frères de recueillir de Balsamo l'utilité qu'elle a droit d'attendre de chacun de ses membres. Quant à Lorenza Feliciani, un châtiment terrible... Attendez, dit Balsamo, avec le plus grand calme dans la voix. Vous oubliez que je ne me suis pas défendu. L'accusé doit être entendu dans sa justification. Un mot me suffira, un seul document. Attendez-moi une minute, je vais rapporter la preuve que j'ai promise. Les commissaires se consultèrent un moment. Oh, vous craignez que je ne me tue, dit Balsamo, avec un sourire amer. Si je l'eusse voulu, ce serait fait. Il y a dans ces bagues de quoi vous tuer tous cinq si je l'ouvrais. Vous craignez que je ne m'enfuie, faites-moi accompagner, si cela vous convient. Va, dit le président. Balsamo disparut pendant une minute, puis on l'entendit redescendre pesamment l'escalier. Il rentra. Il tenait sur son épaule le cadavre roidi, froid et décoloré de Lorenza, dont la blanche main pendait vers la terre. « Cette femme que j'adorais, cette femme qui était mon trésor, mon bien unique, ma vie, cette femme qui a trahi, comme vous dites, s'écria-t-il, la voici, prenez-la !» « Dieu ne vous a pas attendu pour punir, messieurs, » ajouta-t-il. Et par un mouvement prompt comme l'éclair, il fit glisser le cadavre sur ses bras et l'envoya rouler sur le tapis jusqu'aux pieds des juges que les froids cheveux et les mains inertes de la morte allèrent effleurer dans leur horreur profonde, tandis qu'à la lueur des lampes, on voyait la blessure d'un rouge sinistre et profond s'ouvrir au milieu de son cou d'une blancheur de cygne. « Prononcez maintenant, » ajouta Balsamo. Les juges, épouvantés, poussèrent un cri terrible, et, saisis d'une vertigineuse terreur, ils s'enfuirent dans une confusion inexprimable. On entendit bientôt les chevaux hennir et piétiner dans la cour. La porte gronda sur ses gonds, puis le silence solennel, revint s'asseoir auprès de la mort et du désespoir. Tandis que la scène terrible que nous venons de raconter s'accomplissait entre Balsamo et les cinq maîtres, rien n'avait changé en apparence dans le reste de la maison. Seulement, le vieillard avait vu Balsamo rentrer chez lui et emporter le cadavre de Lorenza, et cette nouvelle démonstration l'avait rappelé au sentiment de tout ce qui se passait autour de lui. Et voyant Balsamo charger sur ses épaules le corps et redescendre avec lui dans les étages inférieurs, il crut que c'était le dernier, l'éternel adieu de cet homme dont il avait brisé le cœur, et la peur le prit d'un abandon qui, pour lui surtout, qui avait tout fait pour ne pas mourir, doublait les horreurs de la mort. Ne sachant pas dans quel but Balsamo s'éloignait, ne sachant pas où il était allé, il commença à appeler « Acarat ! Acarat !» C'était son nom d'enfant. Il espérait que c'était celui qui aurait conservé le plus d'influence sur l'homme. Balsamo, cependant, descendait toujours. Une fois descendu, il ne songea pas même à faire remonter la trappe et se perdit dans les profondeurs du corridor. « Ah ! S'écria Altotas, voilà donc ce que c'est que l'homme, animal, aveugle et ingrat. Reviens, Acarat, reviens ! Ah ! Tu préfères le ridicule objet qu'on appelle une femme à la perfection de l'humanité que je représente. Tu préfères le fragment de la vie à l'immortalité. Mais non ! S'écria-t-il après un instant. Non, le scélérat a trompé son maître. Il a joué comme un vil brigand avec ma confiance. » Il craignait de me voir vivre, moi, qui le dépasse, et de si loin en science. Il a voulu hériter de l'œuvre laborieuse que j'avais presque menée à fin. Il a tendu un piège à moi, son maître, son bienfaiteur. Oh, Acarate ! Et peu à peu, la colère du vieillard s'allumait. Ses joues reprenaient un coloris fébrile. Dans ses yeux, à peine ouverts, se ranimait l'éclat sombre de ces lumières phosphorescentes que les enfants sacrilèges placent dans les orbites d'une tête de mort. Alors il s'écriait « Reviens, Acarate, reviens, prends garde à toi. Tu sais que je connais les conjurations qui évoquent le feu, qui suscitent les esprits surnaturels. J'ai évoqué Satan, celui que les nuages nommaient Fégor dans les montagnes de Gath. Et Satan, forcé d'abandonner les abîmes sombres, Satan m'est apparu. » J'ai causé avec les sept anges ministres de la colère de Dieu sur cette même montagne où Moïse a reçu les tables de la loi. J'ai, par le seul acte de ma volonté, allumé le grand trépied à cette flamme que Trajan a ravie aux Juifs. Prends garde, Acarate, prends garde !» Mais rien ne lui répondait. Et alors sa tête s'embarrassant de plus en plus, « Tu ne vois donc pas, malheureux, disait-il d'une voix étranglée, que la mort va me prendre comme une créature vulgaire. Écoute, tu peux revenir, Acarate, je ne te ferai pas de mal. Reviens, je renonce au feu. Tu n'as rien à craindre du mauvais esprit, et tu n'as rien à craindre des sept anges vengeurs. Je renonce à la vengeance. » Et cependant, je pourrais te frapper d'une telle épouvante que tu deviendrais idiot et froid comme le marbre, car je sais arrêter la circulation du sang. Acarate, reviens donc, je ne te ferai aucun mal, mais au contraire, vois-tu, je puis te faire tant de bien. Acarate, au lieu de m'abandonner, veille sur ma vie et sur mes trésors, tous mes secrets sont à toi. Fais-moi vivre, Acarate, fais-moi vivre pour te les apprendre. Vois, vois. » Et il montrait des yeux et d'un doigt tremblant les millions d'objets, de papiers, de rouleaux épars dans cette vaste chambre. Puis il attendait, renaissant, pour écouter ses forces défaillantes de plus en plus. « Ah, tu ne reviens pas, continuait-il. Ah, tu crois que je mourrai ainsi. Tu crois que tout t'appartiendra par ce meurtre, car c'est toi qui me tues. Insensé, quand bien même tu saurais lire les manuscrits que mes yeux seuls ont pu déchiffrer, quand même pour une vie, deux fois, trois fois centenaire, l'esprit te donnerait ma science, l'usage enfin de tous ces matériaux recueillis par moi. Eh bien non, cent fois non, tu n'hériterais pas encore de moi. Arrête-toi, Acarate, Acarate, reviens, reviens un moment, ne fût-ce que pour assister à la ruine de toute cette maison, ne fût-ce que pour contempler ce beau spectacle que je te prépare. Acarate, Acarate, Acarate !» Rien ne lui répondait. Car pendant ce temps, Balsamo répondait à l'accusation des maîtres en leur montrant le corps de Lorenza assassiné, et les cris du vieillard abandonné devenaient de plus en plus perçants, et le désespoir doublait ses forces, et ses rauques hurlements, s'engouffrant dans les corridors, allaient porter au loin l'épouvante, comme font les rugissements du tigre qui a rompu sa chaîne ou faussé les barreaux de sa cage. « Ah, tu ne reviens pas !» hurlait Altotas. « Ah, tu me méprises ! Ah, tu comptes sur ma faiblesse ! Eh bien, tu vas voir ! Au feu ! Au feu ! Au feu !» Il articula ses cris avec une rage que Balsamo, débarrassé de ses visiteurs épouvantés, en fut réveillé au fond de sa douleur. Il reprit dans ses bras le corps de Lorenza, remonta l'escalier, déposa le cadavre sur le sofa où, deux heures auparavant, il avait reposé dans le sommeil, et, se replaçant sur le plancher mobile, il apparut tout à coup aux yeux d'Altotas. « Ah, enfin !» cria le vieillard, ivre de joie. « Tu as peur, tu as vu que je pouvais me venger, et tu es venu, et tu as bien fait de venir, car un moment plus tard, je mettais le feu à cette chambre. » Balsamo le regarda en haussant les épaules, mais sans daigner répondre un seul mot. « J'ai soif !» cria Altotas. « J'ai soif ! Donne-moi à boire, Acarat !»
Balsamo ne répondit rien, ne bougea point. Il regardait le moribond comme s'il n'eût voulu rien perdre de son agonie.
« M'entends-tu ? » hurlait Altotas. « M'entends-tu ? »
Même silence, même immobilité de la part du morne spectateur.
« M'entends-tu, Acarat ? »
vociféra le vieillard en déchirant son gosier pour faire passage à cette dernière irruption de sa colère.
« Mon eau ! Donne-moi mon eau !»
La figure d'Altotas se décomposait rapidement. Plus de feu dans son regard, des lueurs sinistres et infernales seulement. Plus de sang sous sa peau, plus de gestes, presque plus de souffle. Ses longs bras si nerveux, dans lesquels il avait emporté Lorenza comme un enfant, ses longs bras se soulevaient, mais inertes et flottants, comme les membranes du polype. La colère avait usé le peu de force ressuscitée un instant en lui par le désespoir.
« Ah, dit-il, ah, tu trouves que je ne meurs pas assez vite. Ah, tu veux me faire mourir de soif. Ah, tu couvres des yeux mes manuscrits, mes trésors. Ah, tu crois déjà les tenir. Attends, attends !»
Et Altotas, faisant un suprême effort, prit sous les coussins de son fauteuil un flacon qu'il déboucha. Au contact de l'air, une flamme liquide jaillit du récipient de verre, et Altotas, pareil à une créature magique, secoua cette flamme autour de lui. À l'instant même, ses manuscrits empilés autour du fauteuil du vieillard, ses livres épars dans la chambre, ses rouleaux de papier arrachés avec tant de peine aux pyramides de Khéops et aux premières fouilles d'Herculanum prirent feu avec la rapidité de la poudre. Une nappe de flammes s'étendit sur le plancher de marbre et présenta aux yeux de Balsamo quelque chose de pareil à l'un de ces cercles flamboyants de l'enfer dont parle Dante. Altotas s'attendait sans doute à ce que Balsamo allât se précipiter au milieu de la flamme pour sauver ce premier héritage que le vieillard anéantissait avec lui, mais il se trompait. Balsamo demeura calme, il s'isola sous le plancher mobile de manière que la flamme ne pût l'atteindre. Cette flamme enveloppait Altotas, mais au lieu de l'épouvanter, on eût dit que le vieillard se retrouvait dans son élément, et que la flamme, comme elle fait sur la salamandre sculptée au fronton de nos vieux châteaux, le caressait au lieu de le brûler. Balsamo le regardait toujours. La flamme gagnait les boiseries et enveloppait complètement le vieillard. Elle rampait au pied du fauteuil de chêne massif sur lequel il était assis, et, chose étrange, quoiqu'elle dévorât déjà le bas de son corps, il semblait ne pas la sentir. Au contraire, au contact de ce feu qui semblait épurateur, les muscles du moribond se détendirent graduellement, et une sérénité inconnue envahit comme un masque tous les traits de son visage. Isolé du corps à cette dernière heure, le vieux prophète, sur son char de feu, semblait prêt à monter au ciel. Tout-puissant, à cette dernière heure, l'esprit oubliait la matière et, sûr de n'avoir rien à attendre, il se porta énergiquement vers les sphères supérieures où le feu semblait l'enlever. Dès ce moment, les yeux d'Altotas, qui semblaient retrouver leur vie au premier reflet de la flamme, prirent un point de vue vague, perdu, qui n'était ni le ciel ni la terre, mais qui semblait vouloir percer l'horizon. Calme et résigné, analysant toute sensation, écoutant toute douleur comme une dernière voix de la terre, le vieux mage laissa échapper sourdement ses adieux à la puissance, à la vie, à l'espoir.
« Allons, allons, dit-il, je meurs sans regret. J'ai tout possédé sur la terre, j'ai tout connu, j'ai pu tout ce qu'il est donné à la créature de pouvoir. J'allais atteindre à l'immortalité. »
Balsamo fit entendre un sombre rire dont le sinistre éclat rappela l'attention du vieillard. Alors Altotas, lui lançant à travers les flammes qui lui faisaient comme un voile un regard empreint d'une majesté farouche,
« Oui, tu as raison, dit-il. Il y a une chose que je n'avais pas prévue. Je n'avais pas prévu Dieu. »
Et comme si ce mot puissant eût déraciné toute son âme,
Altotas se renversa sur son fauteuil. Il avait rendu à Dieu ce dernier soupir qu'il avait espéré soustraire à Dieu. Balsamo poussa un soupir et, sans essayer de rien soustraire au bûcher précieux sur lequel cet autre Zoroastre s'était couché pour mourir, il redescendit près de Lorenza et lâcha le ressort de la trappe qui alla se rajuster au plafond, dérobant à ses yeux l'immense fournaise qui bouillonnait pareil au cratère d'un volcan. Pendant toute la nuit, la flamme gronda au-dessus de la tête de Balsamo comme un ouragan, sans que Balsamo fît rien pour l'éteindre ou pour la fuir, insensible qu'il était à tout danger près du corps insensible de Lorenza. Mais contre son attente, après avoir tout dévoré, après avoir mis à nu la voûte de briques dont il avait anéanti les précieux ornements, le feu s'éteignit, et Balsamo entendit ses derniers rugissements qui, pareil à ceux d'Altotas, dégénéraient en plaintes et mouraient en soupirs.